Europe 1, le 22-22-30, Élise Dangean.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Aujourd'hui, nous aurons réalisé plusieurs milliers de vaccinations dans tout le pays. Ça va monter en puissance et ça montera encore plus en puissance à partir de mercredi, jeudi, vendredi, la fin de la semaine.
Le gouvernement, accusé de lenteur, passe à la vitesse supérieure dans la vaccination. Accélération notamment grâce à l'ouverture de cette vaccination aux soignants. L'exécutif a visiblement entendu les critiques. Après l'Écosse, l'Angleterre se reconfine pour un mois et demi. Confinement aussi strict qu'au printemps dernier pour tenter d'endiguer l'épidémie hors de contrôle sur place. Aux États-Unis, alors que Donald Trump essaye de truquer le scrutin qu'il a perdu en novembre dernier, les démocrates ciblent les sénatoriales en Géorgie. Et puis, on vous donnera des nouvelles de Damien Seguin, premier skipper handicapé à franchir le mythique Cap Horn. Le temps, demain, va rester toujours aussi froid, avec de la neige en montagne, mais aussi en plaine, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris, elle, a clôturé ce soir en hausse de 0,68% à 5588 points. Tous les détails avec Didier Hameau de Boursier.com et puis l'interview Écho dans 20 minutes avec au programme ce soir la naissance de Stellantis, fruit du mariage entre PSA et Fiat Chrysler. Emmanuel Dutheil reçoit Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Face aux critiques sur la lenteur de la politique vaccinale française, le gouvernement va passer la seconde. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a confirmé cet après-midi. Il était à l'Hôtel Dieu à Paris pour assister aux premières vaccinations de personnel soignant.
Aujourd'hui, les médecins qui travaillent, et je les remercie énormément, ainsi que les infirmières et l'ensemble du personnel administratif, qui ont réussi à déployer 5 boxes parallèles pour accueillir des soignants qui viennent sur rendez-vous, me dit qu'ils sont capables de réaliser déjà plusieurs centaines rien que dans ce centre de vaccination de soignants par jour. Ils seront au-delà de 1000 vaccinations par jour d'ici à la fin de la semaine. Des centres comme celui-ci, ils s'en développent un peu partout sur le territoire national. Ce soir, c'est environ 27 centres qui disposent de vaccins et qui ont pu commencer à vacciner les soignants. D'ici demain soir et mercredi, nous multiplions par 4 le nombre de centres, ce qui fait qu'il y aura une centaine d'hôpitaux qui offriront la vaccination à leurs soignants ainsi qu'aux soignants de ville.
Olivier Véran ce soir à l'Hôtel Dieu. Alors depuis quelques jours, on dit qu'Emmanuel Macron tape du poing sur la table à ce sujet. Jean-Rémy Baudot, bonsoir.
Bonsoir Alice, bonsoir à tous.
C'est la raison pour laquelle il a convoqué cet après-midi une réunion de suivi à l'Élysée ?
Oui, environ 2 heures de réunion pour une véritable mise en scène politique de l'action de l'exécutif. Autour du président, il y avait le Premier ministre, une partie du gouvernement concerné par le dossier vaccination et le monsieur vaccin, Alain Fischer. L'objectif était de mettre en musique l'accélération de la vaccination contre le Covid, mais aussi et surtout montrer que le problème est au cœur des préoccupations, que le sommet de l'État est à la tâche. Au sein du gouvernement, certains ont le sentiment d'être un peu piégés par la polémique. L'argument « c'est un marathon, pas un 100 mètres » répété depuis plusieurs jours ne tient pas face aux comparatifs internationaux. Dans les couloirs de l'Élysée, de Matignon, on réclame donc du temps. On ne peut pas comparer à J+7, explique un conseiller. On a choisi de commencer par ceux qui sont les plus difficiles à vacciner, précise une autre. On fera des comparatifs européens à la fin du mois, promet l'entourage de Jean Castex, le Premier ministre, qui devrait justement s'exprimer jeudi lors d'une conférence de presse.
Mais Jean-Rémy, on est d'accord qu'Emmanuel Macron a toujours le dernier mot dans les décisions?
Oui, bien c'est le cas. C'est d'ailleurs lui qui avait validé la stratégie actuellement en place, stratégie proposée par la Haute Autorité de Santé, publiquement communiquée dès décembre. Et à l'époque, personne n'y voyait rien à redire. Sauf que le jeu politique a fait son œuvre et la vaccination à la française semble dérisoire face à la stratégie allemande. Emmanuel Macron est donc dans une position délicate. Il s'est dit qu'il avait été agacé, mais il ne peut pas totalement renier son propre calendrier. Il ne peut pas avoir l'air de ne pas écouter l'émotion face aux chiffres de l'autre côté. Ce soir, il a mis tout le monde sous pression, explique un conseiller à l'Élysée. Voilà pourquoi il devrait y avoir de nouvelles préconisations après cette réunion dans les prochaines heures, les prochains jours. Une accélération des centres de vaccination. Peut-être aussi une réflexion sur le consentement. Ça ne marche pas très bien. On peut gagner en efficacité, reconnaissait ce soir l'entourage d'Emmanuel Macron.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. En tout cas, cette volonté d'accélérer le mouvement est saluée par certains. Il était temps, dit Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France.
Je crois que le discours du ministre aujourd'hui est tout à fait différent de celui qu'il tenait il y a une semaine. Donc je pense qu'il y a eu en effet une évolution. Il faut, je crois, s'en réjouir. Ça veut dire qu'il a entendu ce que disaient non seulement les élus, un certain nombre de professionnels. Je pense que nous avons la capacité d'aller beaucoup plus vite, en effet, si on mobilise l'ensemble des moyens logistiques dont peuvent disposer notamment les communes. D'ailleurs, nous avions proposé cette démarche d'ores et déjà dès le mois de novembre. On l'a redit au mois de décembre. Ce matin, l'Association des maires de France a publié un nouveau communiqué pour dire la disponibilité des maires à participer et à s'engager dans cette organisation. Bon, il n'y a pas eu de réponse. On l'a redit au mois de décembre. On le redit aujourd'hui. Donc, je pense que là, nous avons fait quand même un pas en avant avec les récentes déclarations du ministre, et j'espère la réunion cet après-midi autour du président de la République.
Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France, joint pour Europe 1 par Claudia Bertram. En revanche, espoir douché pour le vaccin Moderna. L'Agence européenne du médicament ne se prononcera finalement pas ce soir sur l'autorisation. Les discussions qui ne sont pas terminées reprendront mercredi. Trois jours après la fête sauvage du Nouvel An qui a réuni 2400 fêtards au sud de Rennes, en Bretagne, un premier organisateur a été mis en examen et écroué, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Âgé de 22 ans, l'homme vivait dans un camion. Son placement en détention provisoire a été décidé pour éviter la concertation avec les autres organisateurs de l'événement, toujours recherché par la police. Allez, maintenant, on part en Moselle, où les habitants doivent désormais vivre et travailler avec un couvre-feu avancé à 18h. Mesure mise en place samedi dans 15 départements. Arthur Mbaché, vous avez passé la journée à Sarreguemines, en Moselle. Comment s'est passée cette fin de journée sous couvre-feu avancé ?
Alors ça dépend pour qui. Si vous êtes un parent d'élève qui vient récupérer son enfant ici au périscolaire de la Cité à Sarreguemines, rien ne change ou presque. Vous êtes accueillis comme ça par les animatrices Siam et Julie.
Et vous avez ces feuilles-là pour vous, au cas où s'il y a un contrôle. Et voilà. C'est pas évident.
Oui, parce que même pour vous qui habitez loin, ça peut être intéressant.
C'est quoi ce papier, mademoiselle ? Expliquez-moi.
Alors en fait, c'est un justificatif de déplacement. Pour après le couvre-feu, donc à partir de 18h.
C'est le seul changement, si j'ai bien compris, sinon ce couvre-feu 18h, ça...
Ah oui, pour nous, c'est le seul changement, on est là jusqu'à 18h30, comme d'habitude.
Au revoir, Sylvie. Au revoir.
Alors vous avez aussi ici, il faut le dire, des gens lassés, exaspérés, voire un peu perdus avec cette énième nouvelle règle, le maire de Sarreguemines, Marc Zingraff.
Alors il y a des questions techniques, j'ai discuté avec une institutrice qui a l'habitude de passer du temps le soir dans son école à tout préparer, et qui me posait la question, va-t-elle pouvoir rentrer plus tard que d'habitude ? Voilà, donc on n'a pas toujours réponse à tout, et on va voir, d'ici quelques jours, on y verra un peu plus clair.
Alors en cas de doute, vous pouvez vérifier ce que vous avez le droit de faire ici, après 18h, en relisant la fameuse attestation de sortie spéciale couvre-feu.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est.
Europe 1, le 22-22-30, Élise Dangean.
Ce n'est pas un couvre-feu avancé pour eux, mais bien un reconfinement. L'Angleterre va devoir, à partir de mercredi, se plier à un nouveau confinement aussi strict qu'au printemps dernier. Il durera jusqu'à la mi-février, a dit ce soir le Premier ministre britannique Boris Johnson.
Avec la majorité du pays déjà soumise à des mesures drastiques, il est maintenant clair que nous devons faire plus ensemble pour contrôler ce nouveau variant du virus, le temps de déployer nos vaccins. Nous devons donc imposer un nouveau confinement assez dur pour contenir le nouveau variant. Une nouvelle fois, le gouvernement vous demande donc de rester à la maison. Je sais à quel point cela peut être difficile, mais maintenant, plus que jamais, nous devons nous rassembler dans l'effort. Je suis convaincu que nous entrons dans la dernière phase de la bataille, car avec chaque vaccin inoculé, nous faisons reculer le Covid.
Les Britanniques qui ont eux commencé aujourd'hui à administrer le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca avec l'université d'Oxford, en plus de celui de Pfizer-BioNTech. La Grande-Bretagne, où la situation est très préoccupante, hein, près de 60 000 cas en 24 heures. Les actionnaires de Peugeot et Fiat Chrysler ont approuvé l'union des deux groupes, un mariage franco-italo-américain qui va donner naissance à un géant de l'automobile. Quatrième groupe mondial en potentiel de vente, Stellantis, c'est son nom, comptera plus de 400 000 salariés et regroupera 16 marques dont Citroën, Peugeot, Maserati, Fiat ou encore Alfa Romeo. C'est une saga judiciaire qui a débuté il y a un peu plus de 10 ans avec la publication de dizaines de milliers d'informations confidentielles et classifiées sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Informations diffusées par le site internet Wikileaks. Son fondateur, l'Australien Julian Assange, ne sera finalement pas extradé vers les États-Unis. La justice britannique refuse cette extradition pour raison de santé. Marion Dubreuil.
Oui, si la justice britannique a balayé les arguments de la défense qui relèvent de la liberté d'expression, elle a pris l'état de santé du fondateur de Wikileaks très au sérieux, et notamment ses syndromes dépressifs et ses pulsions suicidaires. Elle a conclu, après un mois d'audience et de nombreux rapports d'expertise, que le système carcéral américain n'apportait pas les garanties suffisantes pour empêcher l'Australien de se suicider, car il risque, au vu des accusations d'espionnage et de conspiration qui pèsent sur lui, d'être à l'isolement quasi total. Et c'est un soulagement pour sa compagne et son avocat français Antoine V.
C'est une personne qui n'a pas vu la lumière du jour depuis 10 ans, qui a, dans les derniers mois, été privée de toute possibilité de voir ses proches, de préparer sa défense utilement, d'être soignée. Aujourd'hui, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que nous n'avons pas à envisager un retour sur le sol américain, et on espère que cette première décision va pouvoir en annoncer d'autres positives.
Le gouvernement américain a déjà fait appel. La question est désormais de savoir si l'Australien attendra son prochain procès derrière les barreaux ou en liberté surveillée. Pour le moment, Julian Assange est retourné dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans la banlieue de Londres, avant une nouvelle audience mercredi pour statuer sur une éventuelle mise en liberté.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Donald Trump, lui, tente le tout pour le tout et cherche à interférer dans le résultat de la présidentielle dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Le Washington Post révèle que le président sortant a demandé samedi aux responsables en charge des élections de trouver les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans cet état clé. Et tout cela alors que demain, les électeurs votent pour élire leurs 2 sénateurs en Géorgie, ce qui va déterminer la couleur politique du Sénat. Énorme enjeu pour les démocrates qui ne ménagent pas leur peine pour convaincre les électeurs. Reportage d'Alexis Guilleux dans la banlieue d'Atlanta.
Robin est l'une des milliers de bénévoles du Parti démocrate de Géorgie. Elle passe de porte en porte dans cette rue pavillonnaire. Objectif, rappeler aux habitants d'aller voter mardi.
Okay, so Tuesday from 7 to 7.
Donc mardi, de 7h à 19h, vous savez où se trouve votre bureau de vote? Ça vous ne dérange pas si je vous laisse un flyer? Aller chercher les électeurs jusqu'à chez eux, c'est la stratégie adoptée par le Parti démocrate dans l'espoir d'élire 2 sénateurs supplémentaires. Alice habite dans le quartier, elle pense que de telles actions sont nécessaires.
Les publicités, les appels, les emails, tout ça c'est important. Mais le face-à-face, ça permet parfois aux gens de se rendre compte à quel point le vote c'est primordial.
Le porte-à-porte, c'est une première fois pour Robin et c'est la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle qui a tout déclenché pour elle.
Je me suis sentie pleine d'énergie. C'est si important pour moi de parler aux gens, de les inciter à voter s'ils ne l'ont pas déjà fait. Je pense que c'est le moment de tous se lever et faire notre part. Et c'était ma façon de faire la mienne.
Pour l'emporter, les démocrates espèrent une très forte participation. Elle s'annonce massive avec ce chiffre record. Plus de 3 millions de personnes ont déjà voté par anticipation. À Atlanta, Alexis Guilleux, Europe 1.
Après plus de 3 ans de rupture, l'Arabie Saoudite va rouvrir ses portes au Qatar. Cela comprend son espace aérien, mais aussi ses frontières terrestres et maritimes. Entrée en vigueur dès ce soir et autre signe d'apaisement, l'émir du Qatar va lui se rendre en Arabie Saoudite pour participer au prochain sommet du Conseil de coopération du Golfe. On termine par le Vendée Globe. Yannick Bestaven accentue son avance en tête sur son premier poursuivant, Charlie Dalin. Ils sont désormais 5 skippers à avoir franchi le Cap Horn et à entamer la remontée de l'Atlantique. Yannick Bestaven, Charlie Dalin, mais aussi Thomas Ruyant, Benjamin Dutreux et Damien Seguin. Damien Seguin qui est le premier navigateur handicapé engagé dans le Vendée Globe. Autant dire, Cyril de la Morinerie, que passer le Cap Horn pour lui plus que pour les autres, eh bien c'est un exploit.
Oui, pour fêter son premier Cap Horn, le skipper de 41 ans a débouché le champagne et en a versé un peu partout.
Allez, un peu pour le bateau, un peu pour l'océan, et un petit coup pour moi aussi.
Après 56 jours de course, Damien Seguin a donc franchi cette étape mythique dans une mer très agitée. Une véritable prouesse. Imaginez le skipper sur son monocoque groupe Apicil, est né sans main gauche. En plus, il s'est blessé en début de course au bras avec un couteau. Il a eu des soucis de pilote automatique. Fort logiquement, sa joie était immense quand il s'est retrouvé à quelques encablures de la Terre de Feu.
Eh ben nous y voilà les amis, mon premier Cap Horn, un truc de fou quoi. J'en reviens à peine, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant. Il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là, c'est tellement dur. Là il fait pas beau, il fait froid, mais voilà, j'y suis arrivé, c'est top, le chemin est encore long, mais on va fêter ça dignement.
Damien Seguin, c'est aussi 2 médailles d'or et 1 d'argent aux Jeux Paralympiques. Désormais 4e, Damien Seguin espère atteindre les Sables d'Olonne dans 1 mois environ.
Et on lui souhaite. Merci Cyril de la Morinerie du service sport d'Europe 1. La météo, Anissa Haddadi, avec encore un temps hivernal demain.
Oui, avec encore demain, Élise, un ciel gris sur une grande partie du pays. Sur la moitié nord, tiens, encore des chutes de neige en plaine. Alors, comme aujourd'hui, hein, vous verrez que la neige ne va pas tenir en ville. Mais nous aurons quand même quelques flocons. Sur les côtes de la Manche, des averses dès le début de la journée. Et puis, sur le sud de l'Aquitaine, hein, le Pyrénées-Atlantiques en particulier, eh bien, le temps est humide encore demain avec de nombreuses averses. Sur le bassin méditerranéen, le soleil est enfin de retour. Et puis en Corse, nous avons toujours des averses qui restent fréquentes. Sur les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, de la neige à partir de 500 mètres d'altitude. Là, elle tient. Les températures, elles sont encore froides demain. Nous sommes en dessous des normales de saison et nous aurons moins 7 degrés à Gap, moins 4 à Aurillac et Rodez, moins 3 pour Belfort, moins 2 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 0 à Toulouse, 1 degré pour Lille et Paris, 4 pour Ajaccio et Cherbourg. Et puis au meilleur de la journée, 0 à 11 degrés, 0 à Rodez, 11 à Bastia et 4 pour Paris.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview écho consacrée au mariage PSA Fiat Chrysler. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'observatoire CTLM de l'automobile. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Élise Dangean.
22h passées de 16 minutes sur Europe 1. Merci d'écouter le journal de la nuit. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Élise.
Alors Wall Street commence l'année en baisse après avoir battu plusieurs records d'affilée la semaine dernière.
Oui, ça baisse pas mal pour commencer 2021. Le Dow Jones recule d'1,25%, 30 224 points. Le Nasdaq corrige de 1,47%, 12 698 points, après effectivement les récents records du marché américain. Le regain épidémique aux États-Unis et en Europe inquiète les investisseurs. Et puis le marché attend, vous en parliez tout à l'heure, attend surtout le résultat des urnes en Géorgie qui va déterminer l'équilibre du Sénat américain. Donc en attendant, les technologiques, les valeurs de technologie retombent. Il y a des baisses assez nettes sur Apple, moins 2,6%, $129.19. Amazon, moins 2,1%. Facebook, moins 1,5%. Microsoft, moins 2,1%. Netflix perd 3,3%. Il y a quand même une exception, c'est un petit peu toujours la même, c'est Tesla qui monte encore de 3,4%. Tesla, $729.77 ce soir à la clôture. Le pétrole repère du terrain, moins 2,4%. Il était monté en début de séance, on est redescendu. $47.30 le baril WTI. L'euro reste celui très ferme. L'euro est au-dessus des 1,22. 1,2250 face au dollar.
La bourse de Paris, elle a commencé l'année 2021 en légère hausse de 0,7%, Didier.
Oui, une petite progression, oui, effectivement, 5 589 points, oh, c'est pas grand-chose. Et il y avait quand même une hausse un petit peu plus prononcée ce matin à l'ouverture de la séance au-dessus des 5 600 points, une hausse qui n'a pas tenu. L'avance des valeurs françaises s'est réduite au fil de la journée, alors que Wall Street ouvrait en baisse dans l'après-midi. Quelques grandes valeurs sont quand même remontées. On notera ST Micro, plus 4,5%, Alstom, plus 3,5%, avec Legrand et Schneider. Carrefour a repris 3% à 14,50€. Et puis EDF a gagné 2% ce soir à 13,15€ à la clôture.
Exception du jour, Didier, le secteur des transports est retombé lourdement en clôture.
Oui, les nouveaux reconfinements annoncés en Écosse, en Irlande et ce soir en Angleterre ont pesé sur le secteur des transports qui rechute. ADP, aéroport de Paris, a reperdu 6%, de retour sous les 100 euros, 99,55 € ce soir. Air France KLM, moins 5%, là on est sous les 5 euros, 4,87 € à la clôture. Et puis groupe CRIT, moins 4%, Airbus tente de résister autour de l'équilibre. Donc un secteur chahuté de nouveau, un secteur des transports bien rouge ce soir. Sur les autres places financières, petite hausse sur le DAX à Francfort, plus 0,06%, pas grand chose. Madrid remonte de 0,3%, hausse quand même d'1% à Amsterdam. Et donc le CAC 40 en progression de 0,68%, 5 589 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com et à demain. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview écho. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Flavien Neuvy. Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Et justement, si on a voulu ce soir être en ligne avec vous sur Europe 1, c'est pour parler automobile, puisque le quatrième groupe mondial d'automobiles vient de naître. Il est en partie français. Il s'appelle Stellantis. Alors, si on dit ça comme ça, ça ne dit pas grand-chose à tout le monde. C'est la fusion entre PSA, donc Peugeot, Citroën, DS et autres, et le groupe Fiat, qui compte également des marques aussi iconiques que Chrysler. Le président du conseil de surveillance de PSA, là encore pour quelques heures, Louis Gallois, dit « J'ai rarement eu le sentiment, autant qu'aujourd'hui, de vivre un moment d'histoire. Pour lui, c'est un peu la fusion des fusions. Est-ce que, oui, c'est une fusion à ce point-là intéressante pour les deux groupes ?»
Alors oui, c'est une fusion qui est à la fois historique, très ambitieuse de par sa taille, de par ce qu'elle va générer, c'est-à-dire le quatrième constructeur mondial avec 400 000 salariés. C'est une fusion gigantesque et qui en plus se fait de façon amicale. Il faut toujours rappeler ça, c'est que quand vous avez des rapprochements d'entreprise, vous avez deux possibilités, soit c'est une fusion amicale, soit c'est un rachat hostile. Et on sait que dans l'industrie automobile, les histoires passées ou d'échecs de fusion entre constructeurs ont souvent été dues à des opérations qui étaient jugées hostiles par l'un des deux constructeurs. Et dans cet univers-là, le fait que ce soit une fusion amicale est extrêmement important.
C'est vrai, quand on regarde l'histoire de l'automobile, les fusions réussies sont extrêmement rares. Là, malgré tout, qu'est-ce qui fait, au-delà du côté amical, que selon vous, ça pourrait être un mariage d'amour qui pourrait fonctionner ?
Alors il y a deux points. Le premier point d'abord, c'est l'expertise, l'expérience de Carlos Tavares, qui a quand même réussi le rachat d'Opel en un temps record, en rentabilisant la marque, ce qui n'était pas le cas depuis des années avec son ancien propriétaire. Donc il y a un savoir-faire en matière de fusion qui est très important. Et puis le deuxième élément, c'est que c'est un mariage à la fois ambitieux, mais c'est aussi un mariage de raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie automobile, les défis auxquels elle doit faire face sont tellement importants qu'il faut de toute façon avoir la taille critique. Donc j'ai envie de dire que c'est le sens de l'histoire pour pouvoir répondre aux ambitions de demain, de la voiture plus propre, de continuer à se développer. Voilà, donc tout ça mis bout à bout fait que de toute façon, le groupe doit réussir cette fusion et réussira cette fusion.
Mais l'idée principale, c'est cela, c'est d'être plus gros pour réussir à faire face aux gigantesques investissements. On pense notamment à la batterie électrique, c'est-à-dire que quand on est un groupe aussi gros que va devenir Stellantis, on peut imaginer être dans la course mondiale.
Oui, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça demande tellement d'investissement, tellement de milliards d'euros d'investissement, que si vous n'avez pas le nombre de voitures vendues en face en quantité suffisante pour amortir ces investissements, vous ne pouvez pas durablement être dans la course, d'être dans la compétition. Et aujourd'hui, enfin demain, avec cette fusion, ce nouveau groupe Stellantis aura la taille critique justement pour faire les investissements nécessaires. Néanmoins, il faut quand même rappeler un point, c'est que cette fusion avait été décidée avant la crise du Covid, et cette crise sanitaire a fragilisé l'ensemble du secteur automobile avec un plongeon des ventes. Donc ça se fait dans un contexte qui est encore plus difficile, si je puis dire, sur le plan économique, pour les deux constructeurs, mais pour l'ensemble du monde de l'industrie automobile.
Oui, et puis c'est à l'issue de cette crise, les deux constructeurs ne sont pas du tout de la même façon. PSA a résisté de façon assez extraordinaire à cette crise, n'a par exemple pas eu besoin des financements publics ou des prêts publics en France. Ce n'est pas le cas tout à fait de Fiat. Ça va être très compliqué. Vous disiez par exemple que Carlos Tavares, le patron de PSA, a su restructurer Opel. Là, ça ne passera pas du tout de la même façon en Italie. Il n'est pas question de fermer d'usine, par exemple.
Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, dans ce type de rapprochement, les pouvoirs publics sont très attentifs, évidemment, et c'est logique, à l'emploi et au maintien des sites industriels. Donc forcément, ça se fera de façon... les synergies de coûts se feront progressivement et de toute façon, en limitant, si je puis dire, la casse sociale. C'est pas du tout l'objectif de cette fusion. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a Fiat qui était fragilisé avant même cette fusion. La crise, encore une fois, l'a encore plus fragilisé, alors que PSA a été redressé et sortait quand même d'une très mauvaise passe, il faut le rappeler. En 2012-2014, c'était une période extrêmement difficile pour le groupe PSA. Carlos Tavares a redressé les finances du groupe avec une marge opérationnelle tout à fait spectaculaire. Et aujourd'hui, le nouvel ensemble va pouvoir affronter tous ces défis en étant plus gros et mieux armé, si je puis dire, pour pouvoir répondre à tous ces défis, sachant quand même que c'est un groupe qui dépend beaucoup du marché européen, qui lui a plus souffert que le marché chinois, par exemple, ou que le marché américain de la crise sanitaire.
Oui, parce que quand on écoute ce matin, notamment du côté de l'Assemblée générale de PSA, on nous dit c'est bien parce que les deux groupes vont être très complémentaires. Fiat Chrysler est plus présent en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Nous, PSA, on est plus présent en Europe. Il n'en reste pas moins que c'est un groupe avant tout européen. Si on regroupe Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, et on pourrait en citer encore d'autres comme ça.
Oui, c'est un groupe qui est avant tout européen. Alors c'est vrai que pour PSA, ça permet quand même le rachat, enfin la fusion avec Fiat, d'avoir une implantation aux États-Unis qui reste le deuxième marché mondial avec des grosses voitures qui sont vendues avec des marges importantes, avec des marques qui sont emblématiques. On pourrait citer Jeep, par exemple. Donc pour PSA, c'est intéressant. La vraie question, au fond, qu'on peut se poser quand même à moyen long terme, c'est de savoir si ce nouveau groupe aura les moyens à la fois d'investir les milliards d'euros nécessaires en Europe pour faire la voiture électrique, puisque c'est le choix qu'a fait l'Europe, hein, l'électrification des véhicules, et continuer à être présent durablement aux États-Unis, où là, il faudra encore quand même investir dans les moteurs thermiques, parce que ce sont des gros pick-up, des gros 4x4 qui, eux, fonctionnent encore avec des moteurs thermiques. C'est ça, c'est la vraie question, mais elle ne se pose pas demain matin, mais à moyen long terme, je pense que c'est une question qui restera posée.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un véritable moment d'histoire que vit en ce moment le secteur automobile. C'est-à-dire qu'en quelques années, il va devoir réussir la révolution de l'électrique, la révolution de la voiture autonome, et tout ça, c'est inédit.
Oui, c'est inédit. Je pense vraiment que l'industrie automobile est à un tournant historique. Il faut faire attention quand même, hein, d'une façon générale, aux réglementations et aux normes que l'on fait appliquer aux constructeurs, ne pas vouloir aller trop vite non plus parce que ça les fragilise. Il faut rappeler que la voiture électrique sont des voitures qui sont plus chères pour les automobilistes, donc c'est subventionné par l'État qui verse des primes, mais en plus ce sont des voitures qui rapportent moins aux constructeurs, hein, moins de marge. Donc il faut faire très attention parce que l'outil industriel...
Et qui ont toutes limites écologiques puisque pour le moment, on n'a pas encore véritablement créé de filière de recyclage, notamment des batteries.
Des batteries, pas de filière de recyclage pour le moment, ou pas beaucoup, et des batteries qui sont importées d'Asie. Donc il faut faire attention notamment aussi aux équipementiers. Donc c'est un écosystème qui reste fragile. Néanmoins, la France fait partie des rares pays dans le monde à avoir deux constructeurs de taille mondiale, Stellantis maintenant, et puis bien sûr Renault-Nissan. C'est vraiment une chance inouïe pour notre pays qui a beaucoup désindustrialisé sur ces 40 dernières années, mais on a une filière automobile qui reste forte et très structurante pour l'industrie et pour l'économie de notre pays.
Eh bien, merci pour tous ces détails. Flavien Neuville, le directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel Dutheil. Interview à écouter ou réécouter sur notre site europe1.fr. Et Emmanuel, on vous retrouve demain à 13h aux côtés d'Elisabeth Assayac dans La France Bouge. Votre invité, Véronique Courtois, PDG de la Maison Guerlain. Restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. À tout de suite sur Europe 1. Voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Sur la piste du virus, un an après la fermeture du marché de Wuhan en Chine, La Croix vous emmène avec les scientifiques qui peinent à reconstituer le parcours du coronavirus, mais aussi à remonter aux origines de la pandémie. Et puis en matière de vaccination, pourquoi ça bloque, s'interroge Le Parisien. Les raisons d'un échec, mais la France revoit sa copie, nous disent les Échos. Pour accélérer le rythme, l'exécutif mise sur la vaccination des professionnels de santé. Les délais d'accès au vaccin vont être raccourcis en EHPAD. Bref, Macron cherche à reprendre la main selon Le Figaro. Libération nous embarque, direction les États-Unis pour rejoindre un Donald Trump jusqu'à la lie. À 15 jours de son départ de la Maison-Blanche, le milliardaire cherche encore à renverser la situation, raconte Libé. La Géorgie sera donc la dernière bataille de la guerre entre Donald Trump et Joe Biden. Enfin, télévision, lave-linge, téléphone, ne jetons rien, tout se répare, clame en une West France. Seuls 40% aujourd'hui de nos appareils électriques et électroniques sont aujourd'hui réparés et c'est trop peu. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Élise.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ma foi, tout va bien. Nous sommes en 2021. Nous allons essayer d'entamer l'année de la meilleure manière qui soit.
Absolument. Il y a un numéro pour vous appeler, le 3921, pour vous appeler et témoigner sur la libre antenne qui débute maintenant jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et puis nous, on se retrouve pour le flash à 23h. À tout à l'heure, Élise.
À tout à l'heure.